This is Radio France International.
Paris, RFI, $100.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Bonsoir et bienvenue dans Accent du Monde. Ce soir, c'est avec, pour la rédaction en espagnol, Lucille Gimbert.
Buenas tardes.
Parce que la France, c'est une terre d'asile pour les anciens guérilleros chiliens. Miguel Martins, de la rédaction lusophone. À propos de l'affaire Manuel Chang, qui a des implications au Mozambique, en Afrique du Sud et aux États-Unis. Et puis, Matei Vichnec, de la rédaction roumaine.
Buonasera.
Pour la saison culturelle France-Roumanie, avec des recommandations d'exposition à aller voir. Bonsoir à vous tous. Mais avant cela, intéressons-nous à l'une des principales actualités de la semaine, à savoir la crise politique au Venezuela, avec le président du Parlement qui s'est autoproclamé président à la place de Nicolas Maduro. Il est soutenu par les États-Unis et la France, entre autres. Ce samedi, les partisans des deux hommes se jaugent dans des manifestations de soutien. Lucille Gimbert, tout d'abord, inconnu pour beaucoup de Vénézuéliens, voilà peu, Juan Guaido est devenu en quelques semaines seulement une personnalité très connue. Qui est-il ?
Alors c'est un ingénieur industriel qui est originaire de l'état côtier de Vargas, et Juan Guaido a seulement 35 ans. Son entrée politique en politique date de 2007. Il fait partie d'un mouvement étudiant qui proteste massivement contre feu Hugo Chavez. Juste après, le leader socialiste vivra sa seule défaite électorale connue. Élu député en 2015, Guaido est un des membres fondateurs du parti Voluntad Popular, mené par son mentor Leopoldo López. Ce n'est pas une figure de premier plan jusqu'à il y a quelques semaines, mais comme les principaux dirigeants de l'opposition ont été emprisonnés, contraints à l'exil ou inhabilités par le régime de Maduro, il est devenu en janvier le plus jeune président du Parlement vénézuélien. Et surtout, il a accaparé toute la lumière grâce à son coup politique en se proclamant au milieu de la foule président intérimaire du pays face à un Nicolas Maduro qu'il considère illégitime car élu lors d'élections jugées frauduleuses par la communauté internationale.
Alors il faut qu'il s'impose face à Maduro, il faut qu'il s'impose face aux militaires, parce que Matei Vichnec, l'armée vénézuélienne est incontournable. Pourquoi est-ce qu'elle reste pour le moment fidèle au président Maduro?
Axel Gilden, spécialiste de la géopolitique latino-américaine, explique dans l'Express ce secret de la fidélité de l'armée vénézuélienne au régime socialiste. Tout simplement, il paraît que l'armée est infiltrée par les Cubains. Difficile d'imaginer dans ce cas que l'armée pourrait abandonner Maduro d'un moment à l'autre et passer du côté de Juan Guaido. En outre, selon notre analyste cité par l'Express, il existerait également une alliance entre les narcotrafiquants et certains officiers vénézuéliens, ce qui est une alliance redoutable. L'argent achète le silence. Et de toute façon, beaucoup d'officiers sont les privilégiés du régime. On a vu cela dans d'autres pays socialistes. En conclusion, l'arme de la peur fonctionne très bien. Et la répression aussi, en ce moment, d'après les ONG, entre 150 et 200 militaires sont arrêtés pour rébellion.
Lucille Gimbert, je reviens vers vous. Juan Guaido, donc, est nouveau. Qu'a-t-il de différent par rapport au précédent chef de l'opposition?
Alors, pour Maduro, Guaido, c'est le gamin qui joue à la politique, ou bien le président de la République de Wikipédia. C'est en tout cas un visage neuf dans l'opposition. Longiligne, il a mis au placard les joggings aux couleurs du Venezuela que portait l'ancien leader de l'opposition, Enrique Capriles, et il a réussi à unir une opposition profondément divisée. D'après ce même Capriles, les différentes factions de l'opposition n'étaient pas d'accord, par exemple, sur l'idée de s'autoproclamer président intérimaire, mais Guaido l'a fait, et le soutien international qu'il a obtenu a rangé toute l'opposition derrière lui. Il a aussi pour lui d'être jeune, d'être de classe moyenne, c'est ce que nous a dit le politologue vénézuélien de l'Université du Texas, Iñaki Sagarsasu.
Una de las cosas que trae Juan Guaido es su juventud, que creo que hasta cierto punto eso motiva.
Quelle est l'analyse de ce politologue?
Alors, il nous dit qu'il ne fait pas partie, Guaido, de la vieille politique et qu'en plus, il bénéficie d'un contexte différent. Ce contexte, ce sont les élections présidentielles de mai dernier. Elles n'ont pas été reconnues par de nombreux pays car jugées non transparentes.
Alors, est-ce qu'il peut vraiment réussir là où ses prédécesseurs ont échoué?
Alors, il bénéficie tout d'abord d'une pression internationale qui s'est vraiment intensifiée contre le régime de Maduro, notamment de la part des États-Unis, mais aussi des gouvernements latino-américains qui commencent à souffrir politiquement de l'arrivée de millions de migrants vénézuéliens. Comme ses prédécesseurs, Guaido parie sur la rue, sur les manifestations, mais surtout, et c'est là la différence, il appelle désormais clairement au soulèvement des forces armées. Et pour convaincre les militaires de se retourner contre Maduro, il a adopté, le Parlement a adopté une loi d'amnistie qui couvre les deux décennies du chavisme. Alors, une nouvelle fois, comme dans les dernières réactivations de ce bras de fer politique au Venezuela, la clé est entre les mains des forces armées, c'est ce que nous disions. Et pour le moment, à part quelques défections isolées, eh bien, l'état-major reste fidèle à Maduro, notamment notamment parce qu'elle en tire des avantages économiques.
Matej Wiśniewski, la situation au Venezuela est suivie de très près par les pays du monde entier.
Il y a déjà deux camps qui s'affrontent autour du Venezuela. Pour l'instant, on ne peut pas comparer ces situations avec la Syrie, mais une nouvelle crise internationale n'est pas exclue. Les États-Unis, la plupart des pays de l'Amérique latine et l'Union européenne soutiennent Juan Guaido et ce qui devrait être la marche vers la démocratie dans ce pays. La Russie, la Chine, la Turquie, l'Iran, le Mexique, le Cuba et encore un ou deux pays de l'Amérique centrale et de l'Amérique latine soutiennent Nicolas Maduro. Nous avons encore une fois un format classique de division et confrontation entre les pays qui défendent la démocratie libérale et un certain nombre de pays qui proposent d'autres voies ou qui sont dans une logique autoritaire ou totalitaire. C'est assez inquiétant, par exemple, le fait que la Turquie, pays qui fait partie de l'OTAN, s'oppose concernant Venezuela à tous ses autres partenaires euro-atlantiques.
Ah, concernant l'Europe, justement, le Parlement a dit son soutien à Juan Guaido comme président du Venezuela. Par ailleurs, plusieurs États membres, dont la France avait donné jusqu'à ce samedi à Nicolas Maduro bien le temps d'annoncer l'organisation de nouvelles élections. Michael Martins, vous vous êtes entretenu avec un eurodéputé qui s'intéresse beaucoup à ce pays sud-américain.
Voilà Philippe, il s'agit de quelqu'un qui suit le dossier vénézuélien depuis 2014, un eurodéputé portugais qui a été observateur sur le terrain dans les élections de 2015. Écoutons José Inácio Faria.
O que nós pedimos e reconhecemos Juan Guaido como presidente interino legítimo da República.
Quelle est son analyse?
Voilà, il nous confirmait qu'il s'agissait là de la reconnaissance du président vénézuélien légitime par intérim et d'une demande à ce que les hauts dirigeants de l'Union en fassent de même en attendant la tenue d'élections présidentielles anticipées. Pour ce membre du Parlement européen, il serait la question d'un pas supplémentaire de taille en vue de la liberté au Venezuela et de son peuple, je le cite, tellement martyrisé ces derniers temps. Fin de citation.
Alors quels sont les arguments des députés européens pour cette prise, pour expliquer cette prise de position?
Justement, écoutons à nouveau José Inácio Faria.
A União Europeia já tinha dito que não reconhecia as eleições de 20 de maio de 2018 e, portanto,
donc cet eurodéputé rappelle que l'article 233 de la Constitution du Venezuela prévoit qu'en cas de vacance du pouvoir, le président du Parlement doit assumer l'intérim. Or, depuis le 10 janvier, à ses yeux, c'est exactement ce qui s'est produit, d'autant plus que Nicolas Maduro n'a pas prêté serment devant le Parlement, mais devant la Cour suprême. Donc, pour cet eurodéputé, il n'est point question d'ingérence dans les affaires intérieures du Venezuela, mais de la reconnaissance d'un fait et d'un droit prévu par les dispositions légales de ce pays sud-américain, et ce parce que l'Union européenne n'a pas reconnu les élections du 20 mai, et par ricochet, Maduro n'avait jamais été reconnu par Bruxelles. Il manquait juste cette reconnaissance formelle des nouvelles autorités de Caracas, ajoute-t-il.
Autre chose, quand on parle du Venezuela, on parle pétrole. Matej Wiśniewski, ceci n'est pas forcément étranger avec les appétits de pouvoir des uns et des autres.
Non, ce pays appauvri par 30 ans de socialisme cache en effet des ressources, un trésor, les plus grands réserves de pétrole au monde, plus grands que les réserves de l'Arabie Saoudite, du Canada ou de l'Iran. Au cours des 30 dernières années, toutefois, la production de pétrole a fortement diminué. La société nationale qui gère cette richesse n'a pas réussi à faire les investissements nécessaires. L'armée du représentant du gouvernement s'occupant de la société est en réalité un frein à son développement et les investisseurs étrangers sont prudents et attendent en effet la chute de Maduro pour se mettre à exploiter cette immense richesse. Des intérêts énormes se cachent derrière la crise vénézuélienne. Comme très souvent sur la scène géopolitique mondiale, il n'y a pas que la morale, la quête de la vérité et de la justice, il y a aussi les intérêts, les jeux d'influence et les rivalités.
Voilà pour les regards croisés des rédactions de RFI sur cette crise politique au Venezuela.
Cave shooting de Radio France Internationale.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Intéressons-nous à des sujets particulièrement traités par les rédactions en langues étrangères. La rédaction portugaise de RFI s'est à nouveau intéressée à une affaire qui continue de faire couler beaucoup d'encre au Mozambique. Mais pas seulement, il en a déjà été question dans l'Accent du Monde. C'est le dossier des dettes cachées au Mozambique qui prend de plus en plus d'ampleur, Miguel Martins.
Absolument Philippe, des mandats d'arrêt internationaux ont été délivrés d'abord par les États-Unis, depuis peu également par le Mozambique. Plusieurs personnes ont été arrêtées en Afrique du Sud, aux États-Unis Et au Royaume-Uni, l'une de ces cinq personnes arrêtées n'est autre que l'ancien ministre des Finances mozambicain, Manuel Chang. Il est en prison en Afrique du Sud depuis le 29 décembre dernier et la justice doit statuer la semaine prochaine sur les demandes d'extradition américaines et mozambicaines le concernant.
Alors, sur le fond de l'affaire, il s'agit d'une dette de plus de 2 milliards de dollars américains contractée par trois entreprises mozambicaines avec des garanties de l'État.
Voilà Philippe, et tout ça sans avoir informé le Parlement mozambicain, pas plus que les partenaires financiers internationaux comme le Fonds monétaire international, d'où le fait que l'on parle de dettes cachées. Elles ont été contractées en 2013-2014, notamment pour l'achat de navires de protection côtière. À l'époque, Manuel Chang était ministre des Finances du Mozambique. Or, cette semaine, les choses se sont beaucoup accélérées dans son pays natal. Le Parlement a validé un mandat d'arrêt et la prison préventive de celui-ci, qui est toujours député du Frelimo, le parti au pouvoir.
Alors, comment expliquer ce changement de cap de la part des autorités mozambicaines?
Voilà, cette affaire a permis de pointer du doigt la justice mozambicaine qui n'aurait rien fait pour boucler l'enquête. Il a fallu que ce soit les Américains à délivrer un mandat d'arrêt appliqué par l'Afrique du Sud pour que Chang ne doive s'expliquer devant un tribunal. C'est ce qui nous rappelait Michel Cayenne, spécialiste du Mozambique au Centre des Afriques pour le Monde à Bordeaux. Écoutons-le, il parle de panique à Maputo autour de cette question.
O que estou a ver é que há uma precipitação de iniciativas, o Tribunal Supremo, a Procuradoria-Geral da República, a Assembleia da República.
Cet africaniste nous disait qu'il y avait une précipitation d'initiatives mozambicaines qui découle à la fois de la Cour suprême, du parquet, de l'Assemblée nationale, avec en arrière-plan évidemment le chef de l'État. C'est la panique, sachant que personne n'avait bougé le petit doigt jusque-là pour responsabiliser les suspects dans cette affaire. Ça voudrait dire que l'élite de Maputo souhaite le retour coûte que coûte au Mozambique de Chang, et ce quitte à ce qu'il soit condamné dans son pays. Alors que s'il est extradé vers les États-Unis, c'est certainement le scénario que Chang préférerait mettre en application. Là, il pourra dévoiler une bonne partie de la vérité de cette affaire. Or, ne l'oublions pas, à l'époque des faits, le ministre de la Défense n'était autre que l'actuel président mozambicain.
Il y aurait donc, Miguel, une peur que l'ancien ministre des Finances ne fasse de la délation aux États-Unis par rapport, concernant les responsables politiques de son pays.
C'est du moins ce qui nous a assuré, Philippe, cette semaine, le journaliste Marcelo Moss de Carta de Mozambique. Écoutons-le.
Este caso já está muito inquinado em termos de violações à lei. O interesse das autoridades de justiça moçambique é trazer...
Donc ce journaliste nous faisait part du fait que Chang, si jamais il est extradé vers les États-Unis en vue de réduire sa peine, serait amené à dénoncer d'autres responsables de son pays natal. Quoi qu'il en soit, la décision attendue la semaine prochaine de la part de la justice sud-africaine sur son extradition vers les États-Unis ou vers le Mozambique sera avant tout une décision politique.
Et bien évidemment, la rédaction en lusophone, en portugais, de RFI suivra ça de très près. Lucie Gimbert, vous riez, mais vous avez souhaité, vous, nous parler d'une interview rare qu'a obtenue cette semaine la rédaction en espagnol, celle d'un ancien guérillero sous la dictature de Pinochet. Il s'est évadé au début des années 90, avec d'autres activistes politiques, par un tunnel creusé durant un an avec des bouts de fer de leur sommier. Francisco Peña, c'est de lui dont il s'agit, a obtenu l'asile en France. Il est aujourd'hui devenu citoyen français.
Oui, c'est une interview exclusive qu'a obtenue ma collègue Natalia Olivares. Francisco Peña. Francisco Peña n'avait jamais parlé à la presse depuis son évasion dans les années 90. Il était membre du Front Patriotique Manuel Rodriguez, un groupe de lutte armée contre la dictature de Pinochet au Chili, lorsqu'il a été arrêté en 84 par la junte. Après avoir été torturé par la police politique, il passe aux aveux et est condamné conformément à toute une série de lois, la loi antiterroriste, la loi sur le contrôle des armes explosives, la loi de sécurité intérieure et aussi pour l'enlèvement d'un mineur. Francisco assure aujourd'hui que tous ses aveux ont été contraints et obtenus sous la torture. Il raconte qu'il a aussi été forcé à signer sa déclaration par un juge qui l'a menacé de le renvoyer dans le centre de détention où il avait été torturé. Un juge qui aujourd'hui siège à la Cour suprême chilienne, indique Peña.
Racontez-nous comment il s'est évadé de la prison de Santiago.
Alors, il n'était pas tout seul. Ils étaient plusieurs dizaines de détenus politiques à s'être organisés pour fuir grâce à des bouts de fer récupérés dans leur sommier. On le disait tout à l'heure, ils creusent un tunnel pendant un an. Mais tout de suite, écoutons Francisco Peña.
Había un equipo creativo que se encargaba de inventar cosas para mejorar
Ce qu'il nous dit, c'est que plus ils avancent sous terre avec ces bouts de fer de leur sommier, plus l'air manque. Ils construisent alors un système de ventilation grâce à un moteur récupéré et à un tube qu'ils fabriquent avec des bouteilles de soda. Les prisonniers mettent aussi au point un système de communication avec un micro et un haut-parleur, le haut-parleur d'un enregistreur. Et ils montent la garde à tour de rôle pour réussir à creuser ce tunnel. Finalement, au bout d'un an, ils parviennent à sortir, à dépasser le mur qui les protège de la vue pour ne pas se faire attraper. Finalement, ils rejoignent une station de métro et s'échappent par cette voie.
Vous le disiez, c'est un scoop, Lucille. Pourquoi est-ce qu'il accepte de parler aujourd'hui ?
Parce que le débat sur le devenir des ex-guérilleros contre la dictature de Pinochet a été relancé au Chili. Il a été relancé parce qu'un autre guérillero du même groupe armé s'est réfugié en France il y a quelques mois après des années de cavale. Il s'agit de Ricardo Palma Salamanca. Il a été, pour lui, arrêté juste après la fin du régime de Pinochet et condamné pour l'assassinat de l'idéologue de la dictature, Jaime Guzmán. Palma, lui, s'est évadé lors d'une séquence également digne d'un film, à l'aide d'un hélicoptère cette fois-ci. Et il y a peu, lui et sa famille ont obtenu ici en France l'asile et la France a refusé de l'extrader vers le Chili.
Pour quelle raison ?
Eh bien, la France se base sur les conditions dans lesquelles les aveux ont été obtenus, c'est-à-dire sous la torture. Et elle se base aussi sur le fait qu'il n'y a pas eu de procès équitable. Dans le cas de Palma Salamanca, tout ça s'est passé après le retour de la démocratie. Mais le dictateur Pinochet était encore chef des armées et le système judiciaire chilien ne donnait pas les garanties nécessaires. Par cette décision, en fait, et là c'est politique, la France démontre les failles du processus de transition démocratique chilien qui a été négocié avec le dictateur. Les institutions judiciaires ont d'ailleurs tardé à retrouver leur indépendance. Et c'est justement ce qui énerve, ce qui offusque le gouvernement chilien, et en particulier la droite chilienne, dont un des partis a justement pour fondateur cet idéologue de la dictature de Pinochet, Jaime Guzmán.
Lucille Gimbert de la rédaction en espagnol de RFI. Et puis, vous le savez, la Roumanie assure actuellement la présidence de l'Union européenne. À Bucarest, ce jeudi, il y a eu une rencontre des ministres européens des Affaires étrangères. Ils ont parlé d'ailleurs de cette crise au Venezuela. Ils ont décidé de former un groupe de contact international pour tenter de sortir le Venezuela de la crise. Mais toujours à Bucarest, Matej Wiśniewski, cette semaine, on a également parlé de la défense européenne.
Oui, la ministre française de la Défense, Florence Parly, a parlé à Bucarest de la création d'une armée européenne, projet voulu par la France. La ministre française de la Défense a voulu aussi désamorcer toute polémique autour de ce sujet en précisant qu'il est hors de question que la défense européenne se substitue à l'OTAN. Cette défense sera complémentaire et non concurrente. Pour les pays de l'Europe de l'Est, il faut le préciser, seule l'Amérique est garantie de leur sécurité, mais avec Donald Trump et son style, on se pose des questions là-bas aussi. Madame Parly a énuméré 17 nouveaux projets, dont certains très importants, comme la modernisation de l'hélicoptère d'attaque franco-allemand Tigre. L'Union européenne s'est également dotée d'un fonds européen de défense. Sa dotation devrait passer de 500 millions à 13 milliards d'euros pour la période 2021-2027.
Alors, en parallèle de cette présidence roumaine de l'Union européenne, il y a l'année culturelle France-Roumanie, avec de nombreuses manifestations en France. Et vous voulez, Matej, nous faire quelques recommandations ?
Oui, tout d'abord, je recommande une exposition au Musée de la Chasse et de la Nature ici à Paris. Le chasseur d'images est le titre de l'exposition qui peut être vue jusqu'au 31 mars. C'est un artiste roumain encore jeune, Mircea Cantor, prix Marcel Duchamp de 2011, qui a eu carte blanche pour réaliser un parcours à la fois personnel et pour illustrer les rites et les rituels ancestraux de son pays natal, qui est aussi le mien, la Roumanie. Avoir par exemple des masques apportés du musée du paysan roumain, des masques incroyables. Mircea Cantor est un défenseur du trésor populaire qui existe encore en Roumanie. On peut l'écouter.
Sunt zone etnografice profund marcate încă de civilizația
rurală. Ce vous a-t-il dit ?
Il dit, il existe en Roumanie des zones ethnographiques encore profondément marquées par la civilisation rurale dans des régions comme Maramureș, Moldova, Carpat. Les gens devraient être encouragés par un cadre légal pour préserver cette civilisation paysanne.
Il y a aussi, Matej, beaucoup de manifestations liées à la Roumanie en province.
Et je recommande le week-end qui se prépare autour du vin roumain, week-end organisé entre le 15 et 17 février à la Cité du Vin à Bordeaux. À la station des skis Les Deux Alpes, on a entre le 23 et 30 mars, un peu plus tard, un Snowfest où viendront environ une vingtaine de disc jockeys roumains. Ils sont fameux apparemment en Europe. Et toujours fin mars, la Roumanie est présente avec de nombreux auteur du festival Quai du Polar à Lyon. Attention, talent.
Bien. Bah, écoutez, tous ces rendez-vous sont bien notés. Merci à vous tous pour cet éclairage sur ce qui fait l'actualité dans le monde. C'était Accent du Monde. Dans quelques instants, l'essentiel de l'actualité sur RFI.